Duhem, avec Éric Duhem, Marc Boilard, Julie Grenon et Levez. Lundi au vendredi, 14h, au FM 93.
93.
Mais notre show.
Ah! Excusez!
Bon vendredi Québec, ça la gang.
Bonjour. Salut.
Une petite dernière, pour une dernière fois, on pourrait peut-être jouer ça aussi.
Ouais, de plein qu'on pourrait jouer.
Avant de s'envoler. Donc aujourd'hui, chers auditeurs, c'est la dernière émission du retour d'Éric Duhem avec toute l'équipe. Comme vous le savez, moi je serai de retour à compter du 13 janvier à 11h. Et le reste de l'équipe, ben il y en a qu'on le sait pas, puis il y en a qui s'en vont chez eux. Grosso modo, c'est à peu près ça, là.
En gros.
Et donc, on va faire la meilleure, la dernière. Puis c'est le fun, parce que ça tombe un vendredi 13.
Ben oui, regardons ça.
Est-ce que le vendredi 13... D'abord, êtes-vous superstitieux, puis croyez-vous au vendredi 13? Puis aimez-vous ou détestez-vous les vendredis 13?
Moi, je suis pas superstitieuse.
Fait que tout ça change rien, c'est comme si on était le vendredi le 14.
C'est ça. J'ai entendu qu'on était le vendredi 13 parce qu'il y a des gens à la télé qui ont dit ça ce matin dans un bulletin de nouvelles parce que sinon...
On s'en serait pas rendu compte.
C'est ça.
Ça s'en fiche comme dans l'an 40.
Ouais. Okay. Non, moi non plus.
Toi non plus, Vez? Le chouche, lui?
Ne dérange pas tant que ça, moi t'avoue.
Pas tant que ça, pas peur de rien, le chouchou.
Toi, Éric?
Ben, moi, le vendredi 13, m'a toujours été heureux. Il y a des gens à qui ça porte malheur. Moi, j'ai toujours pensé que c'était positif le vendredi 13 parce que, ben, je sais pas si c'est positif, mais... Quand j'avais, quoi, là, à l'âge que... Quand t'es en sixième année, puis faut t'aller faire tes examens pour essayer de rentrer au privé, il y a quelques personnes qui vont se reconnaître dans ce que je veux dire, j'avais reçu ma réponse un vendredi 13.
Puis ça t'est resté en
ouais,
tête
ça m'est resté en tête que c'était une bonne journée, parce que je pense que ça a changé ma vie.
Fait que t'es devenu superstitieux, mais pas pour la superstition qu'un vendredi 13,
pas
ça
avoir
porte
peur,
ma
mais ça parce que tout le monde
chance.
Disait que c'était une mauvaise journée.
Oui.
Puis c'est comme tout le reste, là, passant en dessous d'une échelle ou voir un chat noir un vendredi 13.
Toi, t'avais déjà l'esprit de contestation puis de contradiction.
C'était tout à sens contraire du monde, mais ça m'est resté. Je me souviens, comme c'était hier, l'école avait appelé et avait demandé à parler de ma maman. Puis j'étais seul à la maison. Mais évidemment, à l'époque, là, c'était juste des téléphones avec des fils dans le mur. Là. Mm-hmm. Puis là, j'ai répondu, la femme me dit, est-ce que ta mère est là? Non, non, ben écoute, elle me l'a dit au téléphone, elle a dit, j'appelle pour te dire que t'as été acceptée. Puis c'est sûr que ça a changé ma vie parce que, indisciplinée comme je suis, si j'avais été au public, j'aurais probablement pas eu les résultats que j'ai eus. C'est, en tout cas,
pourquoi? Parce que t'aurais pas eu le même
j'avais
encadrement?
J'avais besoin d'encadrement, j'avais besoin d'être discipliné, j'avais besoin... qu'il y ait du sport, j'avais besoin. Tout ce qu'on a fait au privé, moi pour moi, c'est un environnement qui était optimal pour ma réussite scolaire, puis ça a paru. Dès que je suis arrivé au cégep, là, je me suis mis à foirer, ça me tentait plus. Mais ben non, mais au cégep, tu sais, m'a dit comme Marc, moi aussi, j'ai fait un deck en cafétéria. Là.
Mais tu savais-tu ce que tu voulais faire, toi, en secondaire 4, 5?
Ben oui.
C'était-tu clair? C'était quoi?
Ben, secondaire 1, c'était clair. Ben moi, je m'en allais en politique. C'était... Écoute, à 12 ans, là, je me souviens, je sortais de l'autobus scolaire. Puis je courais pour aller regarder la période des questions, puis je voulais pas manquer la première question au premier ministre.
En secondaire 1?
Oui.
J'avais pas mieux à faire.
Non.
Fait que toi, tu voulais être le monsieur dans le salon.
Ben, je voulais pas, non, j'ai jamais voulu être le monsieur qui parle en devant. Je voulais être celui qui était le stratège, le petit véreux en arrière.
Ça, tu savais déjà que ça existait, ça, à 12 ans.
Oui, je le savais. Mais faut vous compreniez, je viens d'un environnement un peu particulier. Même si mes parents, c'est pas des intellos, puis c'est pas du monde politique, pas en tout. Mon grand-père était journaliste à la presse.
Ah.
Et ça m'a beaucoup influencé, puis je parlais beaucoup avec lui. Puis j'ai toujours été stimulé intellectuellement. J'ai toujours aimé lire. J'ai toujours aimé l'histoire, la politique. Fait que, veux pas, c'était en moi. Mais le vendredi 13, c'est ça. Ça a signifié pour moi une ascension au niveau professionnel. Puis vendredi 13, il me semble qu'aujourd'hui, on en a plus beaucoup parler. Mmh. Je pense que ça a perdu de son importance, de son cachet. Vous souvenez-vous des films Friday the 13th? Là?
Ben, je me souviens que ça existait, mais je suis pas amateur de ce genre de film-là, moi.
C'est de plus en plus dans le folklore.
Oui, oui, parce que pas mal tout a été fait, hein?
Ouais.
Mais écoute, on avait vraiment peur de ça, là, le vendredi 13. On associait ça à tout ce qu'il y avait de pire. Puis, enfin, c'est pas... je sais pas. C'est comme ça a été une époque. J'ai l'impression qu'on en parlera peut-être plus dans une autre vie. Tu sais, dans une génération ou deux...
Peut-être.
J'ai pas l'impression que le vendredi 13, j'ai l'impression que ça fait partie plus du folklore que d'autres choses.
Oui, ça se peut. Je sais pas, à l'école, si les jeunes au primaire, on leur en parle encore. Parce
ton
que dans le fond,
on l'associe. Y'est-tu là-dessus? T'as-tu parlé de ça matin, lui?
Ben non, mais tu sais, peut-être si je lui avais posé la question quand il y avait 7, 8, 9 ans à l'école, probablement qu'ils doivent en parler. Ça doit faire partie des histoires qu'on leur raconte.
Ça doit.
Ouais. Mais tu sais, il y a tellement aucune preuve que vendredi 13 porte malheur. Ça fait, c'est sûr, à un moment donné, ça va s'éteindre. Je sais pas, d'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait que ça a duré aussi longtemps dans le temps. Ça date de 1309, je sais pas trop. Là,
le vendredi 13?
La Sainte-Barthélemy, là, le massacre.
Ah oui, c'est le massacre, c'est ça.
Qui est arrivé un vendredi 13. Ouais.
Et c'est pour ça qu'on continue à dire que... c'est. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit au Bataclan, la fusillade, c'était un vendredi 13. Moi, je me souvenais pas de ça. Tu savais-tu ça, toi, Julie? La fille des nouvelles, tu dois savoir ça, certain.
En tout cas, je sais que c'était en novembre, me semble, là, mais que...
Oui, c'était en novembre, ça, je suis pas mal sûr.
Novembre 2015.
Puis, ça se peut que c'est un vendredi. Je me souviens comme c'était hier
oui,
où j'étais.
Oui, c'était un vendredi, ça, c'est sûr.
Oui.
Je me souviens.
Que c'était un vendredi, oui. Mais est-ce que c'était...
13 novembre 2015.
Ah ben, Christy, oui, c'est un vendredi 13. Oui. Ben, maudit.
Parce que je devais remplacer Dan pour l'émission de l'avant-match ce soir-là, puis finalement, il y avait une émission spéciale.
Évidemment. OK, je veux parler d'une autre affaire aussi ce matin. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, pour la première fois, on entend parler d'elle. L'affaire Chafia, ça vous dit quelque chose?
Oui.
C'était le crime d'honneur. Mm-hmm. C'est une famille de Montréal, puis le père était parti avec sa deuxième épouse, tuer trois des enfants du couple, d'un des deux couples, parce qu'il était allé tuer sa première femme, puis trois enfants. Il y avait eu quatre morts. Il avait poussé une voiture dans un canal à Kingston, du côté de l'Ontario.
Les trois adolescentes étaient à l'intérieur de la voiture.
Avec leur mère.
Avec la mère. Mais c'était-tu la mère?
En fait, c'était la mère d'un des trois. Puis des...
Ouais, peut-être des plus vieux garçons aussi, je ne sais pas. Mais il me semble que la femme qui témoigne ce matin, là, c'est la mère des filles. Là.
C'est ça. Elle, c'était ses trois filles. Et donc, pour la première fois, elle s'appelle Toba Yahia. C'est arrivé ça le 29 janvier 2012. Elle avait été déclarée coupable. C'est une affaire qui avait retenu l'attention puis qui avait beaucoup choqué parce que c'était des Afghans qui avaient émigré au Canada. Puis bon, jusque-là, c'est correct. La première chose que je trouve bizarre, comment ça se fait qu'il avait le droit d'avoir deux femmes? Parce qu'ici, la polygamie, normalement, c'est interdit.
Ben, ils s'étaient mariés là-bas.
Oui, mais...
Ils sont arrivés, eux, je crois, en 2007 et c'est arrivé en 2009. Le
mais qui prend mairie, prend pays. Quand t'arrives au Canada, tu peux pas arriver avec ta série de femmes, là. C'est pas, tu peux pas te servir des lois d'ailleurs pour aller te marier ailleurs puis revenir au Canada puis dire, ben gars, moi j'ai plusieurs femmes puis vous allez être obligé d'accepter ça même si c'est illégal chez vous. En tout cas, ça c'est la première question que je me pose tout le temps dans cette histoire-là. Ça fait des années que je me demande comment ça se fait que lui, il pouvait être polygame au Canada légalement. Quoi qu'il en soit, donc, elle se livre puis elle dit une phrase parce qu'elle a voulu aller visiter sa mère qui est décédée récemment au cimetière puis elle a demandé une permission spéciale. Et pour faire ça, il y a eu toute une confession avec la commissaire. Et aujourd'hui, il y a un compte-rendu de ça qui est bien rapporté par Daniel Renault dans la presse. Puis la phrase, évidemment, qui choque, puis qui est la manchette, c'est « Depuis que je suis emprisonné, j'ai découvert la liberté.
»
Il a fallu qu'elle se retrouve en prison, condamnée pour meurtre, pour être libre.
Parce qu'elle était sous le joug de cet homme-là,
de son mari,
de sa religion, des croyances, de sa culture.
À 17 ans, sa mère l'a donné à ce gars-là qui l'a marié, qui en a fait sa deuxième épouse. Et depuis ce temps-là, sa vie, c'était une vie de soumission et d'horreur. Et elle a même raconté en détail comment les meurtres se sont passés. Elle comprenait pas, elle était pas au courant d'abord qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait se produire. Mais à un moment donné, ils ont embarqué les trois filles puis la mère dans une des voitures. Et là, il a pris une autre voiture puis il s'est mis à les pousser dans le canal. Puis il est rentré deux fois dans la voiture. Puis la première fois, il a été saisi. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il a dit qu'il était en train de les tuer. Il lui a dit qu'est-ce qu'elle allait raconter aux policiers. Puis elle l'a écouté.
Elle l'a écouté parce qu'elle disait qu'elle avait peur qu'ils s'en prennent aux autres enfants.
Et elle a gardé des contacts avec son mari pendant les cinq années qui ont suivi. Puis la dernière conversation, ça a fini en queue de poisson. Puis il était encore en train de dire que c'était épouvantable ce que ses filles avaient fait. Parce qu'il faut se rappeler que les filles sont arrivées ici, puis c'est des jeunes enfants, là.
13, 15, puis 17.
C'est ça, des jeunes ados, là. Et les filles, ont découvert le mode de vie québécois, nord-américain, puis ils ont aimé ça, puis ils ont commencé à sortir, puis ils ont commencé à avoir des chums, puis ils ont commencé à faire ce qu'une fille normale fait à cet âge-là au Québec. Et lui, évidemment, il acceptait pas ça. Il trouvait que c'était des guidounes, des prostituées, de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, il explique même qu'il voulait même pas revoir sa belle-mère parce qu'elle fumait. Puis il disait que c'était juste les prostituées qui avaient le droit de fumer. Fait qu'il... Hein? Et là, elle a arrêté à un moment donné, elle a décidé que c'était assez.
Elle a demandé le divorce.
Ah, mais il voulait pas.
Il veut pas.
Il a refusé le divorce. Puis, en tout cas, tu lis ça, là, puis tu finis de lire ça, tu checkes la tête, puis tu dis, OK, le gars, là, comment tu peux être endoctriné au point où ta religion, là, ton fanatisme religieux islamique est plus fort que l'amour de tes enfants, de tes trois filles, puis de ta femme? Puis comment 5 ans après que t'es aies tué, tu peux encore penser que t'as fait la bonne affaire?
Ben, c'est pas de l'amour, c'est du pouvoir, c'est du contrôle.
Mais c'est de la folie.
Ça n'a rien à voir avec l'amour.
Oui, mais comment tu peux t'être fait endoctriner? Comment ta religion peut être assez forte?
C'est ça. C'est probablement que lui, ce qu'il a compris du rôle de père de famille, c'est pas d'aimer ses enfants puis sa conjointe, c'est de les contrôler puis d'avoir du pouvoir sur eux autres.
C'est capoté. Et là... L'histoire n'est pas finie. Là, on dit qu'ils sont en prison présentement. Ils vont purger une peine.
25 ans.
De 25 ans à ferme. Quand ça va être fini, on les gardera pas au Canada. C'est déjà décidé qu'ils vont être expulsés puis qu'ils sont retournés en Afghanistan. Là, j'ai une autre question. Pourquoi on les a pas retournés en Afghanistan tout de suite?
Parce que le crime a été commis ici puis ils sont donc punis ici.
Mais peut-être que ça aurait été pas mal moins luxueux puis pas mal moins facile leur détention en Afghanistan. Moi, j'aurais payé le gouvernement de l'Afghanistan puis je les aurais retournés tout de suite. Mm. Écoute, tu lis ça, là, puis tu dis, voyons donc, puis le bonhomme, il n'a rien compris ni du cul ni de la tête, là.
Puis pour ce qui est de la mère, ça explique des choses, mais ça excuse pas.
Mais non, ça excuse rien. Elle n'a pas porté assistance à ses enfants qui se faisaient tuer. Elle a beau être sous le joug de son mari. À un moment donné, tes enfants sont en train de se faire tuer, fille. Ils wake up.
Ça se peut-tu que... Ben, je pense que d'abord, ça prend des ententes entre les pays pour extrader des prisonniers. Mais l'autre affaire, ça se peut-tu qu'ils aient gardé ici pour pas que lui retourne là-bas et qu'il soit accueilli...
En héros?
En héros par certains.
Ouais.
Parce que les crimes d'honneur, là, c'est sûr qu'ici, ça n'existe pas pantoute. Là. On n'a pas le droit de faire un crime d'honneur. Mais c'est sûr que au niveau religieux, ça existe pour eux. Dans l'islam, c'est quelque chose qui existe. Donc, un crime d'honneur, quand quelqu'un porte atteinte à la réputation de ta famille, t'as le droit de sauver l'honneur de ta famille. C'est d'où là le nom vient. Là.
En vertu de tes valeurs, peu importe lesquelles.
Ben, religieuse. Ouais, du fait qu'il y a quelqu'un qui a porté ombrage à ta famille puis qui a terni à tout jamais. Faut-tu que ça soit fort? J'ai habité au Maroc, vous le savez, pendant un bout de temps. À un moment donné, là, c'est un des événements qui m'a le plus terrorisé pendant que j'étais là-bas. C'était mon chauffeur que j'aimais beaucoup. Puis, tu sais, c'était un jeune garçon intelligent, beau comme un cœur, qui avait étudié, qui parlait 3 langues, qui, tu sais, que tu penses qu'il est très moderne, là, tu sais, dans le sens qu'il est plus... Tu sais, c'était un gars plus intelligent que la moyenne, plus débrouillard, plus tout ce que vous voulez, là. Je pouvais lui demander n'importe quoi, il allait me le chercher, il trouvait toujours des façons, j'ai demandé plein de trucs, il était vraiment sharp. Et un jour... Il me dit que... Puis là, lui, évidemment, il connaît pas mon orientation sexuelle. Il a aucune idée de ma vie. Pour eux autres, on est un peu des extraterrestres. Là. Quand t'arrives dans un autre pays comme ça, là, t'sais, quelqu'un qui arrive... Puis ils savent que j'ai pas les mêmes valeurs. T'sais, moi, je prends de l'alcool. Là, j'ai tous les défauts du monde. Bon, je suis haram. Là. C'est pas, tout ce que je fais, c'est pas sain. Là. Et donc, une journée, il m'annonce que son frère, qui était pas vieux, là, il avait peut-être 22, 23 ans. Là, qu'est-ce que t'as? Il filait pas pantoute. Là, il dit, mon frère... Il n'y a pas de blonde, puis il n'est pas marié. OK, c'est un gars de 22 ans qui n'est pas marié. Là, tu tombes pas en bas de ta chaise.
Ben non, pas fin de monde en principe. Là.
Il me dit, il n'y a pas de copine non plus. Bon, je dis OK. Il dit là, la famille, on s'est réunis, puis là, on soupçonne qu'il est gay. Mais là, je dis, qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. Là, ah non, il dit, c'est très grave. Il dit là, moi, je suis l'aîné. Il dit là, si c'est vrai, là, ça pourra pas fonctionner comme ça, là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais le battre, mais je pourrais peut-être le tuer.
Mais ça, l'aîné, c'est parce que ça lui incombait à lui dans leur façon de
ben,
voir
ça? Ben, pour lui, là, dans sa tête, là, c'était lui qu'il fallait qu'il... L'honneur de la famille reposait sur ses épaules.
Puis, est-ce que lui, il voulait faire ça ou c'est parce que c'était... l'honneur avec un gros H là, qui fait qu'il n'aurait pas pu laisser passer ça parce qu'on
jamais,
laisse pas
c'est
passer
jamais obligatoire, le comprenez, là, c'est une pression sociale. C'est dur à définir. Là. Mais là, j'ai dit, mais t'es fou? T'es sérieux, là? J'ai dit, c'est pas ton frère qui mérite une volée, c'est toi? Puis là, je me suis engueulé avec. Écoute, ça a été assez dramatique comme discussion. Mais j'en revenais juste pas. Comment les gens peuvent... Puis ça explique plein d'affaires dans notre société. Là. Pourquoi à la guerre, les gens font des atrocités? Pourquoi quand il y a des foules, comment le monde devient fou? Pourquoi? Comment la pression sociale fait qu'on perd toute logique puis tout raisonnement? C'est vraiment... Puis là, c'est pas juste en rapport à l'islam. Il y a bien d'autres facettes de la vie là, où c'est comme ça. Là. Mais ça, c'en est une, entre autres. Puis l'affaire des crimes d'honneur, non seulement j'en ai entendu parler, mais je l'ai vu de mes yeux, là. Et comment tu réagis quand quelqu'un te dit ça? Moi, les deux bras me sont tombés. Je pouvais pas concevoir qu'il voulait tuer son frère ou il voulait le battre parce que son frère... Puis c'était même pas vrai, là.
Il était peut-être probablement... C'est
juste parce qu'il avait 22 ans puis il n'y avait pas de femme, là. Et là, je pense que sa mère, elle... Parce que souvent, ils promettent leurs enfants à d'autres, hein? Puis sa mère, elle avait trouvé une femme de sa cousine ou je sais pas qui, puis il avait refusé de la marier. Et parce qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est normal, là, il y a des jeunes qui ils se rebellent puis ils veulent pas se faire imposer un mariage. Et donc, lui, il s'était rebellé contre ça. Puis pour eux, dans leur tête, ben ça, il y avait un soupçon que probablement qu'il était gay. Puis, tu sais, t'es dans des pays où ils disent que l'homosexualité n'existe pas. T'sais, statistiquement, c'est zéro. Même comme, tu sais, l'ONU, mettons, l'Organisme mondial de la santé va rapporter toutes les données, par exemple, au niveau de quand il y avait le sida, là, que c'était une épidémie grave, ça l'est encore, mais aujourd'hui, on entend moins parler de décès. Là. Mais à l'époque où il y en avait plusieurs, bien, tous les pays musulmans, vous regarderez, là, quand on leur demandait puis qu'il fallait qu'ils remplissent les bilans officiels au niveau mondial, c'était toujours zéro. Parce que eux autres, l'homosexualité n'existe pas. Donc, le sida, ça n'existait pas chez eux.
Est-ce que tu t'es déjà senti menacé là-bas?
Pas en tout.
Puis est-ce que c'était vu et su que t'étais gay?
C'est ça qui est bizarre, c'est que dans le monde arabo-musulman, je sais que c'est comme ça en Inde aussi, puis dans plein de pays en voie de développement, la proximité entre les hommes est beaucoup plus forte qu'ici. Fait que, tu sais, voir deux gars s'embrasser puis se tenir par la main, c'est beaucoup plus normal là-bas qu'ici.
C'est bizarre, hein?
Puis ils prennent tous leurs bains ensemble, puis ils se frottent, puis ils font tout éteint. Puis à partir du moment où tu penses que la femme est inférieure à toi, là, t'es pas valorisé d'être avec une femme. Là. Fait que quand tu veux faire des vraies activités, c'est toujours avec un homme. Quand tu sors pour aller prendre du café, c'est avec des gars. Quand tu vas faire du sport, évidemment, c'est avec des gars. Quand tu vas en voyage, souvent, ils partent en voyage tout seul avec le chum de gars. Tout se fait entre gars. Puis les filles, la même chose. Ils vont magasiner ensemble, ils se réunissent ensemble, ils gardent les enfants ensemble, ils font des trucs de femmes. Puis même les maisons sont faites avec des espaces, des pièces pour hommes puis des pièces pour femmes.
Fait qu'un gay peut passer plus inaperçu là-bas.
Ben, je trouve. Mais c'est ça qui est bizarre. C'est qu'ils sont prêts à tuer s'il est gay, mais ils se comportent à nos yeux comme des gays.
Ça favorise les rapprochements. Et la naissance de sentiments, peut-être aussi, parce que quand t'es prêt comme ça...
Ben oui, mais c'est normal. Tu peux pas aimer quelqu'un qui est inférieur. Tu tombes pas en amour, tu sais. À partir du moment où tu penses que la femme est inférieure à l'homme, t'as pas envie de tomber amoureux de ça. Puis inversement aussi, la femme qui est soumise à un bourreau, penses-tu que Shafia l'aimait, son mari? Ben non, elle était terrorisée par lui, elle était sous son joug. Mais c'était pas de l'amour certain.
Ben non.
Elle avait peur de lui. Tu peux pas avoir peur de quelqu'un que t'aimes, ça marche pas. Là, tu sais, les sentiments, c'est pas de même, ça marche. Là. Fait que ça fait juste des relations fuckées. Là.
Mais c'est vrai que t'imagines, excusez l'anglicisme, là, mais le wake-up call quand t'es en prison, comme cette femme-là, qui apprend puis qui jase avec d'autres femmes québécoises, même si elles ont commis des crimes, là, tu réalises à quel point tu vivais dans un autre monde, sur une autre planète, là, avec un homme comme Shafia. Là. Je l'excuse pas, là.
Non.
Mais t'as vraiment... une dose de réalité là, qui te saute dans la face. Là.
On l'excuse pas, mais on comprend.
C'est ça?
On comprend ce qu'elle a vécu en lisant ça, mais il n'y a rien qui excuse le fait que tu as participé au meurtre de tes enfants. Là. Rien. Puis il n'y a pas un parent qui va écouter, qui va penser que ça a du sens. Là. Mais on comprend la logique puis dans quelle dynamique elle était avec son mari / bourreau.
Mais ici, on peut pas l'excuser.
Ben non.
Mais si ça s'était passé
chez eux en Afghanistan,
ben oui, ça aurait été excusable.
Ben ça aurait peut-être même pas été condamné.
Ben c'est ça, il n'y aurait peut-être pas eu de procès.
Aïe, aïe, aïe. Mieux vaut même pas y penser. Autre truc dont je veux vous jaser aujourd'hui, je sais pas si vous avez lu ça, mais il y a des disquaires, c'est une histoire un peu banale, là, OK? Vous savez qu'il y a des heures de commerce où on peut être ouvert, puis il y a des heures où on peut pas être ouvert.
Mm-hmm.
Les fêtes de semaine...
Ça dépend du nombre d'employés.
Ça dépend du nombre d'employés, ça dépend du quartier dans lequel vous vous trouvez, ça dépend de toutes sortes d'affaires. Mais normalement, les heures normales, c'est jusqu'à 17 heures les week-ends. Okay? Les samedis, dimanches, normalement, à 5 heures, il faut qu'ils ferment. Mm. Puis c'était le cas des disquaires. Mais il y a eu une journée spéciale où c'était une journée rétro là, pour les disques vinyles. Tu sais, mm-hmm. les anciens disques. Là, mm-hmm.
les 33 tours.
Les 33 tours, puis les 45 tours aussi, ça rentre-tu dans les disques vinyles?
Ben,
oui, c'est en vinyle aussi.
Oui.
Et c'était la journée nationale du disque vinyle, le Record Store Day. C'était au mois d'avril. Et là, il y a quelques commerçants, puis ça se passe du côté de Montréal. Le nom des commerces, là, c'est Sonorama, Phonofolis et La Rama. Qui sont restés ouverts un peu plus tard que 5 heures parce que c'était une journée nationale puis il y avait beaucoup de monde, c'était comme une espèce de party. Et là, le gouvernement a des inspecteurs. Ça, en partant, ça me fait capoter. Là. On paye du monde 60-70 000 $ par année pour se promener le soir puis qu'ils regardent leur monde puis ils disent « Ah, il est 5h02 » puis qu'ils courent d'une porte à l'autre des magasins pour essayer de voir lequel la porte est ouverte pour lui sacrer des amendes entre 2 000 et 3 000 $. Déjà, je trouve ça hallucinant que on s'en prenne à des commerçants pour ça. Là, quand même qu'ils ferment 10 minutes plus tard, veux-tu bien me dire, qu'est-ce que ça change, ça? C'est quoi le problème qu'ils ferment 10 minutes plus tard? Surtout qu'en plus, c'était pas quelque chose qui était récurrent. Là, c'était arrivé une journée nationale de quelque chose. Il y avait une excuse pour ouvrir, être ouvert encore un peu plus tard. Puis l'autre affaire, c'est pour être proche de quelqu'un qui est un petit commerçant, là. Ça arrive des fois que tu contrôles pas tes employés puis que l'employé est en train de faire essayer du linge à quelqu'un. Puis la personne, elle vient de finir, mais elle a la pile, puis elle décide qu'est-ce qu'elle prend pas, puis après ça, elle passe mm-hmm. à la caisse, puis elle se rhabille.
Ah ouais,
tu mets pas le monde tout nu dehors, puis tu le garoches pas
évidemment
par la tête, là.
Non.
Bon, fait que ça se peut que ça dure 10-15 minutes de plus. Mais pendant ce temps-là, ça arrive que l'employé oublie de barrer la porte pendant qu'elle est en train de servir le client, puis pendant qu'elle est en train de passer sa carte de crédit dans la machine, puis pendant qu'elle est en train de replier le linge qu'il faut qu'il retourne dans les étagères. Puis là, le commerçant... Déjà qu'on sait que le commerce, c'est difficile là, sur les rues, là, avec le commerce en ligne maintenant, il y en a de moins en moins, puis on voit de plus en plus ça, des commerces vides, puis alloués. Ben Christy, ils lui ont flanqué une amende de 2 000-3 000 $. Je me disais, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, les heures d'ouverture des commerces, puis le respect des heures? D'abord, est-ce que ça devrait encore exister aujourd'hui? Parce qu'une boutique en ligne, là, elle est ouverte 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
C'est pas bête. Est-ce que, quand c'est situé dans des secteurs plus touristiques, est-ce que ces heures-là tiennent? Parce qu'il me semble que sur non. la rue Saint-Jean, ça tient pas.
Il y a des secteurs touristiques où ça peut aller jusqu'à 9h.
Ça dépend. C'est ça.
Mais il faut que ça soit beaucoup des secteurs touristiques.
Donc, il y a des exemptions.
Oui, mais ça arrête de tel coin de rue à tel coin de rue, de telle saison à telle saison. Tu sais. Mais sais-tu... Je veux dire, les commerces, ils ferment parce qu'il n'y a plus de monde. Qui va aller magasiner samedi soir à 8h30 pour aller s'acheter une blouse, tu sais? Puis s'il y en a un, puis s'il y en a un en ville qui décide de rester ouvert pour servir ce clientèle-là, qu'est-ce que ça dérange, ça?
Je suis assez d'accord.
On parle souvent qu'on paye trop d'impôts. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la nouvelle, là, mais on est un des endroits qui paye le plus d'impôts au monde. Hein?
Mm-hmm.
On est 13e ou 14e au Québec. Là. On paye beaucoup plus d'impôts que nos voisins, évidemment, du continent.
Je pense pas qu'il y ait personne qui a fait de saut en entendant ça.
Non, là. Non, je pense pas. Tout le monde qui travaille et qui voit sa slip de paye à la fin de la semaine, je pense qu'ils le savent assez bien, merci. Puis quand on reçoit nos comptes de taxes municipales, pour ceux qui sont propriétaires, on le sait aussi. Puis qu'à chaque fois qu'on achète un produit puis qu'on voit la TPS TVQ s'ajouter sur tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on fait.
Et tous les tarifs à chaque fois qu'on veut mettre un pied en avant de l'autre.
Alors, c'est ça. Les taxes, là, on est inondé de taxes, on le sait. Mais l'idée, là, c'est pas qu'on veut enlever la retraite à des aînés. C'est pas qu'on veut empêcher des malades de se faire soigner. C'est pas qu'on veut empêcher des enfants d'aller à l'école. Mais payer des inspecteurs pour écœurer les commerçants à 5h15 un samedi après-midi.
Puis en réalité, cette loi-là, je sais pas, là, je réfléchis à voix haute, là, mais est-ce que c'est pour protéger les employés, pour éviter qu'il y ait, tu sais, par exemple, de l'abus dans les heures de travail? Elle existe pourquoi, cette loi-là?
Fouille-moi. Historiquement, là, premièrement, il faut que vous compreniez que historiquement, les commerces étaient fermés le dimanche.
Okay? Ouais.
Ça, c'était pour des raisons religieuses.
Ouais.
Ça fait pas 100 ans, là.
Non. Début des années 80, peut-être, que ça a commencé à ouvrir le dimanche.
Puis au début, c'était très réglementé, puis tranquillement, ça allait ouvert à plus d'employés.
C'était à partir de midi seulement,
c'est ça,
je pense, au début.
Au début, puis après ça, ça a descendu. Mm-hmm. Bon. Mais c'est récent là, qu'on peut ouvrir nos commerces le dimanche, là, déjà, là. Après ça, on n'avait pas le droit de vendre de l'alcool non plus. Il y a eu une période où il n'y avait pas le droit de vendre de l'alcool les dimanches. Fait que même les dépanneurs ne pouvaient pas en vendre. La SAQ était fermée, etc. Puis pourquoi on a convenu que 92, nous dit quelqu'un, hein? C'est si récent que ça.
92?
Pour le dimanche?
Ouais, ça se peut-tu?
Oui, oui.
Mais c'est récent quand même.
Assez.
Ça fait 25 ans, 26 ans. C'est pas beaucoup dans l'histoire d'un peuple.
Non,
là.
Mais non.
Et donc, ça a évolué. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, où les gens, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, achètent en ligne, il va falloir qu'on évolue encore, là. On a changé ça le dimanche parce que ça convenait plus, puis que c'est pas vrai que le dimanche c'était le jour du Seigneur pour tout le monde, puis que tout le monde était à la messe, là. Ben, c'est plus vrai que tout le monde travaille de 9 à 5 du lundi au vendredi, puis que ça convient les heures d'ouverture des commerces comme on les a faites. D'ailleurs, il n'y a pas une exception aussi dans le temps des fêtes, ils ouvrent jusqu'à 9 heures. Hein? Je pense qu'ils ont le droit d'ouvrir plus tard.
Ouais, à partir du 1er décembre.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est ça. Ben, comme là, présentement. Là. Et il y a quelqu'un qui nous dit même présentement, on a toujours pas le droit de vendre de l'alcool entre 23h et 8h le matin.
C'est dans vrai. Les dépanneurs? Ah oui, tu vois.
Dépanneurs de chasseurs, là.
Tu savais pas. Non, mais si tu vois la nuit acheter de l'alcool, chose, ils veulent pas t'en vendre.
C'est ça.
Puis d'ailleurs, ça pose un paquet de problèmes. Les gars qui allaient à la chasse par la pêche, c'était à 7h le matin ou à 6h, ils partaient, puis ils pouvaient pas acheter le bière, puis ils étaient bien enragés. Bon, ils étaient surtout obligés de partir le voyage en retard. Mais il faudrait à un moment donné qu'on évolue. En tout cas, j'ai juste pensé que cette nouvelle-là faisant en sorte qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se mette en 2019 ou en 2000, je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui dit, veux-tu même dire pourquoi les dépanneurs, eux autres, ont le droit d'ouvrir? Ça aussi, c'est une bonne question. C'est quoi? Le gars qui vend des vinyles, il a pas le droit d'ouvrir, mais le gars qui vend des bouteilles de bière puis des palettes de chocolat, lui, il a le droit.
Mm. Ben, c'est parce que ça s'appellerait pas un dépanneur, sinon.
C'est ça.
Ça dépannerait pas.
Oui, mais dépanner, là, tu peux dépanner le monde, les habiller, pas juste pour les nourrir, tu peux dépanner le monde.
Non, non, je comprends le point, là.
Ben, de toute façon, Eric, je suis pas certaine que les gens revendiqueraient nécessairement de pouvoir ouvrir les magasins le samedi soir jusqu'à 9h, là.
Ben non!
Tu sais, je veux dire, je pense pas que ce soit nécessairement payant. Peut-être que c'est parce que sur une rue X, ben là, si t'as un magasin qui est ouvert, les autres sont pas ouverts, est-ce que c'est pour de la concurrence, une question de... d'obliger les autres à ouvrir alors qu'ils n'ont peut-être pas le personnel ou qu'ils ne veulent pas. Ou...
Là, vous allez me dire, c'est en plus, Éric, on est en pénurie de main-d'œuvre. On a déjà de la misère à rester ouvert les heures qui sont prévues par la loi.
C'est ça.
Premièrement, il n'y a personne qui vous oblige d'ouvrir. Il y a beaucoup de boutiques qui ouvrent juste à 11 heures. Même si on doit ouvrir le matin plus tôt, ils décident eux autres que ça commence juste à 11 heures. Il y en a qui ferment à 7 heures, même dans le mois de décembre. Ils ne ferment pas à 9 heures. Je veux dire, tout est possible. Il y en a qui ouvrent encore juste à midi le dimanche. Il y a beaucoup de possibilités puis d'aménagements qui peuvent être faits.
Même dans les centres commerciaux, là, ce matin, je suis allée à Place Laurier et je pense qu'il y a des boutiques qui étaient ouvertes seulement à 10 heures ce matin. J'étais arrivée un peu avant 10 heures, moi, puis il y en avait qui étaient fermées encore. Puis les autres, ils ont ouvert peut-être à 9h30, comme normalement on a quand c'est une boutique qui est pignon sur rue la semaine, là. Fait que déjà, il y en a qui font des choix comme ceux-là, mais il y en a aussi, peut-être qu'ils vont dire, ben là, si le client, il vient pas chez nous, il va prendre l'habitude d'aller chez le voisin, si lui, il est ouvert plus tard,
tu sais. C'est ça, parce qu'ici, il va être ouvert.
C'est ça.
Mais mon point, c'est juste, gars, vivre et laisser vivre. Laissez donc le monde ouvrir à l'heure qu'ils veulent. Puis les commerçants, puis les clients vont se trouver un point d'équilibre où c'est rentable d'ouvrir. C'est sûr que si tu vends pour 10$ dans la nuit, puis que tu payes ton employé 15$, c'est évident que tu feras pas une scène, puis ça t'offre pas longtemps ton histoire, là. Mais inversement, si le monde finit plus tard de travailler puis il a le goût d'y aller plus tard, le mercredi soir plutôt que le jeudi, ben peut-être que tu vas ouvrir le mercredi soir. Puis ultimement, tout le monde va gagner.
Je pense qu'en France, je sais pas si c'est le cas partout en Europe, mais il me semble qu'en France, les commerces ouvrent beaucoup plus tard qu'ici. C'est même après 9h, là. Pour plusieurs, en tout cas. Peut-être pas tous, là.
En tout cas, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous. Julie, maintenant, parle-nous de ta soirée d'hier, parce que là, tu me parles d'un matin que tu es allé magasiner.
Je n'écoute pas, là, par exemple.
Non, mais je ne te donnerai pas trop de...
Je sais qu'hier, tu es allé voir Axel du Cirque du Soleil. Ah, toi, tu t'en vas à soir.
Je vais ce soir,
moi.
Ouais. OK, mais là, regarde, je ne dis pas son fun.
Non, mais peut-être juste pour lui donner le goût, finalement, d'y aller, parce que j'y allais sans trop d'attente. Des spectacles du Cirque du Soleil, sous chapiteau, j'en ai vu un quand j'étais jeune. Sinon, c'était ceux à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. C'est une scène qui est en avant de nous. Mm-hmm. Donc, des acrobaties, on en voit. Tu sais, je veux pas dire qu'on est blasé des fois des acrobaties, là, mais tu sais, la fille qui descend de ses grands draps blancs.
C'est pis, déjà vu.
Tu sais, les trapèzes, puis tout ça, tu sais, ça fait qu'à un moment donné, ça vient toujours un peu du pareil au même, mais c'est tellement bien enveloppé qu'à chaque fois, c'est nouveau pareil, nouvelle musique, nouvelle ambiance, nouvelle mise en scène. Puis le fait que ce soit sur une glace avec des patins, c'est sûr que c'est toujours un peu... quand tu les vois faire des pirouettes, tu dis tabarouette, c'est dur de la glace, là. Mm-hmm. S'ils tombent sur la tête, ça va faire mal. Ou quand ils font des acrobaties avec des lames, tu dis ben là, on dirait que le risque de blessure est plus grand. Mais ce que j'ai été étonnée surtout, ben de tout ça, oui, mais c'est l'image qui est projetée sur la glace. Tout ça ensemble, là, les effets visuels, la musique, les lumières, les athlètes, moi je les appelle les athlètes, on dit des acrobates, ouais, là, mais quand même...
C'est athlétique leur affaire.
Fait que ça, c'est impressionnant. C'est tout ça mis ensemble que tu fais comme wow, là, les décors, les costumes. Fait que j'ai passé vraiment une belle soirée. Puis comme je vous dis, moi je partais de pas vraiment... j'étais
vendu
pas,
d'avance.
Non, c'est ça. Puis finalement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais j'ai un petit... c'est la première fois que j'allais au Centre Vidéotron.
Ah oui?
Puis je suis pas jamais vraiment allée dans un match de hockey. Fait que je présume que dans un match de hockey, les gens qui sont dans des loges, c'est un peu festif, hein? Tu sais, tu regardes le match, en même temps, tu manges, tu bois, tu peux rire, tu peux t'amuser. Oui. Fait que tu sais, l'ambiance, c'est pas la même. Sauf que là, on est dans un spectacle où la musique est forte. Quand la musique est forte, ça va, on les entend pas. Mais à un moment donné... Là, il y a une musique qui passe, c'est plus doux. Puis des fois, on pourrait même entendre des coups de patin sur la glace, tu sais, puis tout ça. Mais là, t'as une loge ou deux en haut, le party pogné, là.
OK, puis eux autres, le show, ils s'en foutent un peu, là.
Mais ils le regardent pas. C'est sûr qu'ils le regardent pas. Puis là, nous, on est comme en dessous de ces loges-là. Puis là, on fait comme, il vient d'où le bruit? Puis là, il y a plein de gens autour qui le veillent. Ils regardent, ils lèvent les yeux en haut. Tu vois, voyons, ils font quoi, eux autres? Fait que là, je me questionnais. T'sais, quand tu vois dans une loge, après ça, j'ai regardé les autres loges. Tout le monde était assis, tranquille, puis ils regardaient le spectacle.
Okay.
Mais quand tu vas là, puis je trouvais que ça avait comme pas de classe.
Ben, ils allaient au restaurant, eux autres.
Oui, c'est ça.
Mais, sauf qu'en même temps, les loges, c'est souvent des entreprises qui ont ça.
Oui.
Puis ça sert souvent à faire des espèces de réunions formelles ou informelles. Puis pour l'avoir déjà vécu, moi, ça m'est arrivé souvent... Souvent, des fois, je vais avec mon chum, puis mon chum, lui, il va regarder le spectacle ou il va regarder n'importe quoi, le match. Puis moi, je jase en arrière. Puis surtout quand j'étais en politique, c'était pire, là. C'est arrivé combien de fois que j'étais allé voir, mettons, un match de hockey au Centre Bell à Montréal, là. Puis je revenais à la maison, puis je savais même pas qui avait gagné.
Ouais, mais la réunion, Éric, t'as fait avant le show, ouais. Il me semble.
Ou sinon.
Pendant le show, t'as regardé.
Non, mais sinon, tu vas dans le fond de la loge. C'est du réseautage.
Ouais.
Ouais, mais là, tu sais, c'est un spectacle.
Puis là, des fois, il y a deux, trois loges, puis là, tu changes de loge, puis tu s'en vas voir l'autre gang, l'autre bar, puis là, ils viennent te voir, puis là, tout le monde se prend de l'alcool. Puis évidemment, le fait que c'est bar ouvert, souvent, ça aide pas, parce que vous savez, comme moi, que les décibels augmentent au fur et à mesure que les breuvages rentrent. Et donc, c'est sûr que c'est la loge, ça se prête à ça.
Oui, mais un spectacle de musique, j'achète. Un match de hockey, j'achète, j'ai pas de problème. Mais là, tu sais, quand c'est vraiment silencieux puis qu'il y a une prestation en avant, puis que là, t'entends juste...
Pas respectueux, c'est
mais non,
sûr.
Je me sentais comme dans un bar, tu sais.
Mais ils s'en sont jamais rendus compte, eux autres, là,
non,
que
ben,
ça vous
peut-être qu'ils ont été avertis, parce que j'ai aucune idée. Moi, c'est le genre d'affaires qui me choque, là. J'aurais pu me lever, là, puis aller cogner à la porte en haut, là. On va dire, là, qu'est-ce que vous faites là? Je suis même certaine que... je sais, Eric. Les artistes, ils devaient l'entendre aussi,
ah oui,
à ce point-là. Puis tu vois, il y a des gens qui disent, j'étais là hier, ils étaient vraiment dérangeants.
Il y a quelqu'un qui dit aussi, il ne faut pas chialer ces loges, c'est eux autres qui apportent les revenus. Ça, c'est l'autre problème.
Ouais. Mais c'est pas parce que tu payes que tu as tous les droits.
Non, c'est vrai.
J'ai un peu de misère avec cet argument-là.
Mais en même temps, là, on le sait que une des raisons à Québec qu'on a perdu les Nordiques, c'est à cause de ça. Là. S'il y avait plus de grosses entreprises qui étaient... Le problème à Québec, là, c'est pas parce qu'on aime pas assez le hockey, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de fans des Nordiques, c'est parce qu'on n'a pas assez de sièges sociaux de grosses entreprises qui sont capables de se payer ces loges. Là, parce que c'est ces loges-là qui font vivre l'équipe.
Ben maintenant, oui, mais c'est parce qu'à l'époque du vieux Colisée, il n'y avait pas assez de loges d'abord.
C'est ça. Ça prenait des grosses
c'était
loges.
C'était vraiment pas accueillant. Là,
puis aujourd'hui, en plus, le gouvernement n'achète plus de loges. Fait que ça... À Québec, là, on n'a pas des grosses, grosses multinationales. Là.
Non, mais il y a plusieurs PME qui peuvent se le permettre, je pense.
Parce que c'est des groupes, c'est assez cher.
Ou faire des regroupements d'entreprises qui vont acheter une loge à deux ou à trois ou à quatre. Là.
Mais tu sais, c'est les forces des marchés. T'sais, hier, on parlait que New York puis Toronto, c'était les équipes qui valent le plus dans la Ligue nationale. C'est pas pour rien. Là. Eux autres, ils en vendent des loges. Ils ont des listes d'attente pour vendre des loges.
Tu sais, parce qu'il y a un autre facteur. Ben, si on veut changer, dévier un peu le sujet, peut-être qu'il n'y a pas assez d'entreprises à Québec qui sont capables d'acheter toutes les loges au Centre Vidéotron pour une éventuelle équipe de la Ligue nationale. Mais tu as des entreprises à Montréal qui ne sont pas capables d'en acheter au Centre Bell parce qu'elles sont toutes vendues. Ou même à Toronto.
À Toronto, c'est encore
plus. Il y a des entreprises de Toronto qui vont en acheter à Québec.
Il y a quelqu'un qui dit qu'il était là hier à la loge, dans une loge corpo, là, puis c'était 10 loges plus loin que deux autres qui avaient un party, que c'était l'enfer. Bon, c'est peut-être que c'était un party de bureau, un party de Noël. Eux autres, ils ont servi de la loge pour faire le party de Noël.
Non, non, c'est ça. Là, c'était plus juste du social.
C'était
là,
un mauvais cas.
Oui, oui, vraiment. Là,
toi, à soir, t'as-tu des grosses attentes, mon cher Vest?
Ben oui, puis non. T'sais, moi, j'ai vu plusieurs shows du Cirque du Soleil. Pas tous, là, mais je n'ai peut-être vu peut-être une dizaine. Puis non, j'ai pas nécessairement d'attente. C'est la première fois que j'en fais un sur glace. C'est sûr que
c'est différent.
La scène est très, très différente de tout ce que j'ai vu avant. Mais non, moi, je m'en vais là puis je me laisse éblouir.
Ben, tu vas aimer ça.
Ouais.
Beaucoup d'auditeurs demandent, Julie, si t'étais accompagnée de Marc Boilard. Je sais pas pourquoi. Non, mais je fais juste poser des questions qui rentrent au 25-226.
J'étais merveilleusement bien accompagnée de mon chum.
Ah!
Et de mon fils.
OK, fait que c'était pas les rumeurs sont fausses.
Non, c'est très faux.
C'est important de le préciser.
Ton chum, c'est pas Marc.